I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
À 44 ans, Bassirou Diomaye Faye devient le cinquième président du Sénégal. Ce leader de l'opposition, candidat anti-système, a remporté l'élection présidentielle dès le premier tour.
Il n'y a presque pas eu de suspense au Sénégal. L'opposition a remporté l'élection face au camp du président sortant Macky Sall, qui ne pouvait pas se représenter. La fin d'un psychodrame qui avait vu le camp présidentiel tenter d'annuler le processus de vote. Le Sénégal entre dans une nouvelle ère. Je suis Pierrick Fay, vous écoutez La Story, le podcast d'actualité des Échos. Et tout de suite, une petite précision, mon nom se prononce de la même façon, mais ne s'écrit pas comme celui de Bassirou Diomaye Faye, le nouveau président sénégalais.
En élisant président de la République, le peuple sénégalais a fait le choix de la rupture pour donner corps à l'immense espoir suscité par notre projet.
Les premiers mots de Diomaye Faye après son élection au premier tour de la présidentielle, d'abord repoussé sur décision de son prédécesseur Macky Sall, le vote a finalement pu avoir lieu dans un climat pacifique après 3 années de troubles politiques et de manifestations anti-gouvernementales parfois violentes, notamment après l'incarcération des leaders de l'opposition, dont Diomaye Faye, qui a remporté une victoire éclatante.
Alors oui, c'est une victoire éclatante et à plus d'un titre. Déjà, c'est une victoire au premier tour.
Pierre Favennec est correspondant des Échos au Sénégal.
C'était arrivé en 2019. Macky Sall, le président qui se représentait, avait été élu au premier tour, mais il bénéficiait alors de la prime au sortant. Dès le lendemain, la presse sénégalaise titrait d'ailleurs sur un plébiscite, une véritable razzia.
Les résultats officiels sont tombés dans la nuit de mercredi à jeudi. Diomaye Faye a obtenu un peu plus de 54% des voix contre près de 36% à Amadou Ba, le candidat du parti au pouvoir. Le troisième des 19 candidats en compétition pointe à seulement 2,8% des suffrages et le taux de participation atteint lui 61%. Mais Pierre, il y a quand même eu une incertitude lundi matin.
Oui, alors la presse au Sénégal fait remonter les résultats par bureau de vote. Il n'y a pas de visages qui apparaissent à 20h pétantes comme en France, par exemple. Ce sont des estimations qui sont compilées au fur et à mesure. Donc on avait lundi matin une estimation, une nette avance du candidat du PASTEF, Bassirou Diomaye Faye. Il était déjà à plus de 50%, donc il devançait son adversaire principal Amadou Ba. Mais encore une fois, les résultats n'étaient toujours pas définitifs.
Et sans attendre les résultats officiels, Amadou Ba a reconnu sa défaite. Il a appelé le vainqueur pour le féliciter et prier pour lui, d'après un porte-parole du gouvernement. L'ex-président Macky Sall a lui salué sur le réseau X la victoire de la démocratie sénégalaise. Alors Pierre, vous êtes de retour en France après avoir suivi l'élection. Quelle était l'ambiance à Dakar depuis la confirmation de sa victoire dès le premier tour?
Alors, à Dakar, dimanche soir et même tôt dans la soirée, les partisans de Bassirou Diomaye Faye ont commencé à faire la fête. Ça a duré jusque tard dans la nuit. J'ai eu des Sénégalais sur place qui me racontaient qu'ils ne s'étaient pas couchés avant 4 ou 5 heures du matin dans plusieurs quartiers de la capitale. Et on a même eu donc des voitures, des deux roues, des Sénégalais à pied qui ont naturellement convergé vers un quartier de Dakar, le quartier de Kër Kordji, où est domicilié Ousmane Sonko, donc le chef de l'opposition. Donc de la musique, des fumigènes, des chants. On a même entendu la musique Coup de marteau. Alors Coup de marteau, c'était l'hymne de la Coupe d'Afrique des Nations qui s'est tenue il y a quelques mois en Côte d'Ivoire. Donc voilà, c'est pour dire que l'ambiance était à la fête.
Un coup de marteau sur la tête du parti au pouvoir, mais le résultat final n'est pas vraiment une surprise, même si l'on pouvait penser qu'il y aurait un second tour. Macky Sall a multiplié les grands projets ces dernières années, renvoyant une image de bâtisseur, mais son bilan n'a pas parlé pour son camp.
Alors le bilan de Macky Sall est assez mitigé. Effectivement, comme vous le rappelez, il a été un bâtisseur dès 2014, donc 2 ans après avoir été élu pour la première fois. Il a lancé le plan Sénégal émergent. Donc c'est un vaste projet de modernisation du pays, en investissant plusieurs milliards de CFA dans des grands travaux, donc dans un stade, dans l'autoroute, dans un TER flambant neuf à Dakar, un BRT, des bus électriques. Donc voilà, toute une série d'infrastructures. Sauf que ce que reprochent certains Sénégalais, c'est de ne pas avoir en fait touché les fruits de ces investissements et que certaines de ces infrastructures en fait ne s'adressent pas aux Sénégalais moyens, aux Sénégalais des campagnes qui peuvent estimer avoir été lésés pendant ces mandats. Même si il faut quand même noter que sur le terrain des campagnes sénégalaises, Macky Sall a fait beaucoup pour notamment l'électrification. On a assisté à un bond du taux d'électrification dans les campagnes entre le début de son mandat et la fin. Après, ce qu'il faut souligner, c'est qu'il a surtout en fait raté sa sortie, Macky Sall, en annulant l'élection présidentielle, toute cette crise politique qui a duré plusieurs semaines, tout ça pour repousser l'élection présidentielle d'un mois, ça a marqué les esprits et ça a très certainement desservi Amadou Ba, son dauphin.
Et oui, la croissance du Sénégal, plus de 5% en 2023, ne profite pas à tous. Au moins une personne sur trois vit encore dans la pauvreté, selon le Programme alimentaire mondial de l'ONU. La chanson de Makouba Diop en l'honneur du nouveau président, Pierre, qui est Bassirou Diomaye Faye.
Alors, Bassirou Diomaye Faye, on n'a pas énormément d'ingrédients, en fait, pour dresser son portrait. C'est la première fois qu'il va avoir des responsabilités à ce niveau-là. Ce qu'on sait déjà, c'est que, voilà, c'est un homme de l'ombre. Autant Ousmane Sonko, le chef de l'opposition, était sur le devant de la scène, autant lui, c'était un lieutenant qui travaillait dans l'ombre. Il a contribué avec Ousmane Sonko à la création du PASTEF, donc le parti de l'opposition, dès 2014. Il a été l'architecte du projet politique du PASTEF. Et alors, il passe pour être quelqu'un de sobre, d'organisé, de méthodique. Il faut rappeler qu'en fait, les deux hommes étaient, avant de se lancer en politique, inspecteurs des impôts. C'est là qu'ils se sont connus. Donc, on a découvert en fait vraiment Bassirou Diomaye Faye pendant la campagne électorale, pendant les meetings. Il apparaissait, la mine fermée, concentrée, comme s'il était déjà pleinement conscient de la charge qui l'attendait, de la charge qui lui incombait.
Il est issu d'une modeste famille d'agriculteurs. C'est vraiment, on va dire, le bras droit de Sonko. Il l'a accompagné, j'ai envie de dire, presque jusqu'en prison. Pourquoi était-il en prison, d'ailleurs?
Alors, Bassirou Diomaye Faye a été arrêté il y a quelques mois, au mois d'avril 2023, pour atteinte à la sûreté de l'État. En fait, il s'élevait contre l'arrestation d'Ousmane Sonko. Il était donc en prison à Dakar avec son mentor, où il est resté quasiment un an, et ils ont été libérés en même temps, quelques jours après le début de la campagne électorale, à la faveur d'une loi d'amnistie qui a été votée par le pouvoir.
Pourquoi le principal opposant à Macky Sall, Ousmane Sonko, présenté comme charismatique, ne s'est pas présenté? Pourquoi est-ce qu'il a choisi le jeune et honorable Diomaye Faye?
Alors le principal problème pour Ousmane Sonko, en fait, c'est qu'il était tout simplement inéligible. Il a été définitivement condamné au début du mois de janvier dernier par la Cour suprême. Voilà, il a été condamné pour diffamation et injure publique envers la ministre du Tourisme. Frappé d'inéligibilité, par la suite, il a enchaîné les chefs d'accusation. Donc, il a été accusé de corruption de la jeunesse au mois de juin dernier, d'atteinte à la sûreté de l'État. Donc voilà, pour Ousmane Sonko, il était impossible de se présenter. Et quand le Conseil constitutionnel a publié en janvier dernier la liste des candidats admis à se présenter, eh bien voilà, son nom n'y figurait pas. Après, il faut garder en tête que le PASTEF a martelé tout au long de la campagne que les électeurs n'allaient pas voter seulement pour un homme, mais pour un programme, pour un projet. Ils ont rappelé tout au long de la campagne que, voilà, Sonko, Moy, Diomaye, Diomaye, Moy, Sonko. Alors, c'est du Wolof, ça veut dire Sonko, c'est Diomaye, Diomaye, c'est Sonko.
Entouré d'une foule en liesse et dans le bruit des klaxons, Ce véhicule se fraye un chemin dans les rues de Dakar. À son bord, l'opposant Bassirou Diomaye Faye. Ce dernier vient d'être libéré de prison.
L'Aliès à l'annonce de la libération des dirigeants du PASDEF, Sonko et Faye, comme on l'entend sur France 24. Diomaye, qui signifie l'honorable en sérère, c'est une des communautés du Sénégal, eh bien, il va passer de la prison au palais présidentiel, c'est presque du cinéma. Pourtant, Pierre, il n'a eu que très peu de temps pour mener campagne.
Effectivement, la campagne présidentielle a été courte, 2 semaines au lieu de 3 habituellement. Dans le cas de Bassirou Diomaye Faye, c'était même un peu plus court, puisqu'il a passé les premiers jours de la campagne présidentielle en prison. Il a donc eu 2 semaines pour sillonner le pays, partir à la rencontre des électeurs. Dès le début, dès qu'il a été libéré, il s'est rendu en Casamance, qui est le fief de l'opposition et le fief d'Ousmane Sonko. Il a visité plusieurs autres localités, mais c'était vraiment une campagne harassante, même une première campagne, puisque c'est la première fois que Bassirou Diomaye Faye se prêtait à l'exercice, une première campagne harassante et éclair.
On le présente comme un candidat anti-système. Quel est son programme ?
Alors effectivement, il est présenté, ainsi qu'Ousmane Sonko, comme un candidat anti-système. Alors anti-système, c'est vaste. Effectivement, il y a de la part du PASTEF une critique du système économique, une critique du système des élites en place au Sénégal. Après, il n'a pas non plus renversé la table de la démocratie sénégalaise puisqu'il a été élu à la loyale. Son programme, c'est déjà un programme de souverainisme, un souverainisme politique et surtout économique. Alors, ce souverainisme économique, comment est-ce qu'il se traduit ? Bah, déjà, c'est renégocier avec les entreprises étrangères pour que la collaboration soit gagnant-gagnant avec le Sénégal. Les entreprises françaises, notamment, qui sont régulièrement accusées de néocolonialisme par une partie de l'opinion sénégalaise et notamment les électeurs du PASTEF. Après, moi, j'ai discuté du coup avec des représentants des entreprises françaises en Afrique. Eux se disent pas inquiets, ils sont même ouverts à la discussion et en fait plutôt rassurés par le climat favorable. Après presque 3 ans de crise, le climat au Sénégal semble apaisé. L'autre point fort du programme, c'est s'attaquer au problème du chômage de la jeunesse. Donc, il y a un fort taux de chômage chez les jeunes. Il faut rappeler que 60% des Sénégalais ont moins de 25 ans. Pour lutter contre ce chômage, ils veulent notamment investir dans l'agriculture, qui emploie plus de la moitié des Sénégalais, et investir notamment dans un système productif agricole. Maintenant, il va falloir observer, et parce qu'il y a toujours une différence entre le programme, le temps de la campagne et la réalité du pouvoir. Donc, à voir maintenant comment est-ce que ce programme de rupture va être appliqué et comment il va être mis à l'épreuve, en fait, des réalités économiques du pays.
Oui, il y a aussi la volonté de mettre fin aux francs CFA, mais pour ça, il faudra discuter aussi avec les autres pays africains partenaires au sein du CFA. La question de la souveraineté du Sénégal, vous en parliez, elle est importante aussi avec 2 questions cruciales en termes de ressources futures, c'est la pêche et le pétrole.
Oui, le pétrole, c'est une ressource au Sénégal. Il y a eu des découvertes de gisements entre 2014 et 2016. Il faut rappeler que Ousmane Sonko a commencé sa carrière en politique en écrivant en fait un livre sur le pétrole pour attaquer les contrats entre l'État sénégalais et les compagnies pétrolières étrangères. Alors ces compagnies pétrolières étrangères, c'est notamment les Anglais BP et Kosmos ou l'Australien Woodside. Total n'exploite pas encore, ils explorent mais ils n'ont pas encore trouvé de pétrole. Donc ces sociétés étrangères, elles ont investi en fait plusieurs milliards de dollars. Ce sont des infrastructures, des technologies de pointe. Par exemple, dans le cas du gaz, le gisement de gaz, il se situe à 100 km des côtes, à plus de 6000 mètres de profondeur. Donc voilà, c'est vraiment une technologie bien particulière et extrêmement onéreuse. Alors la question des revenus du pétrole, en fait, c'est indiqué dans les contrats. Ça s'appelle le profit oil et ça permet de savoir quelle part des revenus va arriver à l'État du Sénégal, quelle part vont arriver aux compagnies pétrolières. Alors, il est toujours possible de renégocier ces contrats. Après, est-ce que les compagnies pétrolières vont accepter ? Ça, à voir.
La question de la pêche ?
Alors, la pêche, ressource extrêmement importante aussi au Sénégal. Ça emploie directement ou indirectement un peu plus de 600 000 Sénégalais. C'est presque 17% de la population active. Et les pêcheurs, aujourd'hui, font face à 2 problèmes. Donc, le premier, ce sont des accords qui sont faits avec l'Union européenne qui permettent aux navires européens de pêcher dans les eaux sénégalaises en échange d'un versement d'argent à l'État sénégalais. Une concurrence déloyale qui est critiqué par les pêcheurs. L'autre problème, c'est les navires qui vont se servir dans les eaux sénégalaises hors accord. Donc il y a des Chinois, des Turcs et même certains pays européens qui vont en fait vider les filets des pêcheurs. Donc l'idée de Bassirou Diomaye-Faye, c'est de renforcer la surveillance des eaux du Sénégal et de renégocier ces accords de pêche.
Un nouveau président pour le Sénégal, jeune et ambitieux pour le pays, on va le rappeler, il n'a que 44 ans. Le Sénégal ouvre une nouvelle page de son histoire, Pierre ?
Oui, le Sénégal ouvre une nouvelle page de son histoire, même si il faut le rappeler que c'est un pays habitué aux alternances. En 20 ans, il y en a eu deux, même si cette fois-ci, c'est particulier. Dans la sociologie électorale sénégalaise, on n'avait jamais vu un président aussi jeune, un président qui était sorti de prison avant, un président avec un tel programme de rupture. Cette nouvelle page qui s'ouvre dans l'histoire du Sénégal, elle est aussi intéressante pour les autres pays de la région. Parce que après cette élection présidentielle, en fait, le Sénégal conserve son rang, celui d'un pays avec une longue tradition démocratique, dans une région qui, il faut le rappeler, a été secouée par les coups d'État ces dernières années. Donc c'est le signe vraiment d'une vitalité démocratique dont certaines démocraties, même occidentales, pourraient fortement s'inspirer.
Démocratique, une chanson du duo sénégalais Mahabo, la volonté de construire un autre Sénégal plus juste, plus libre et plus solidaire, meilleur pour toutes les Sénégalaises et les Sénégalais, presque un programme. C'était en 2021. La démocratie sort grandie au Sénégal. C'est aussi ce que disent les observateurs envoyés par l'Europe et la CEDEAO. Dans l'ensemble, le scrutin a été bien organisé. Les électeurs ont pu faire leur choix librement, dans une ambiance paisible et ordonnée. Caroline Roussy est directrice de recherche à l'IRIS, elle est responsable du programme Afrique. Je lui ai demandé quelles leçons elle tirait de cette élection au Sénégal, de cette alternance politique.
Cette élection présidentielle fait taire tous les Cassandres, toutes les personnes qui ont annoncé une forme de marasme, la fin de la démocratie sénégalaise, la fin de l'exception sénégalaise, qui ont prédit un coup d'État militaire. Eh bien, les Sénégalaises et les Sénégalais ont démontré le contraire et leur capacité, eh bien, à organiser démocratiquement une élection. Bien évidemment, cela n'obère absolument pas la dernière séquence qui s'est déroulée du 3 février au 4 mars, une séquence durant laquelle il y a eu de nombreuses incertitudes compte tenu du fait que Macky Sall avait décidé de reporter, voire d'annuler la dite élection présidentielle, ce qui n'a pas été possible compte tenu de la pression de la rue, compte tenu de la pression des acteurs politiques, de la société civile, sans doute aussi des religieux et enfin peut-être des acteurs diplomatiques.
C'est ce qui fait finalement que tout ça n'a pas dégénéré et que Macky Sall est finalement revenu en arrière et a organisé cette élection ?
Oui, sans doute un petit peu de tout ça. Et puis il faut savoir qu'au Sénégal, eh bien, parfois, il y a un peu des sorties de route, des tensions. Ce n'est absolument pas la première fois que le pays connaît une situation de tension presque paroxystique. Je rappellerai 1988 au Sénégal. Abdou Diouf est opposé à Abdoulaye Wade. Abdoulaye Wade n'est pas satisfait des résultats. Le chef de l'État, qui est Abdou Diouf, déclare l'état d'urgence au Sénégal. C'est une année de grève, c'est une année extrêmement complexe. Au niveau sous-régional, il faut savoir que des tensions apparaissent avec la Mauritanie. L'année suivante, une guerre débute. Les relations ne sont guère au mieux non plus avec la Gambie. Voilà, c'est-à-dire qu'il ne faut pas évidemment se satisfaire de ces tensions, mais on voit que c'est un pays où la démocratie est sans doute perfectible, mais qui a intégré le principe démocratique et notamment eh bien, l'alternance politique. Et surtout comparativement à d'autres pays où on voit par exemple le changement de constitution au Togo dirigé par Faure Gnassingbé.
Le Sénégal, c'est la vitrine de la démocratie dans cette partie de l'Afrique. Pourquoi est-ce que ça fonctionne dans ce pays et beaucoup moins dans les autres pays voisins ? Vous citiez le Togo.
Tout ceci tient déjà à des sociétés, à des dynamiques socio-économiques, sociopolitiques, sociaux culturelles qu'il convient de considérer comme étant différentes d'un pays à l'autre. Et on a un petit peu tendance, hein, nous occidentaux, à regarder l'Afrique comme étant un pays, alors qu'il y a bien ces dynamiques, hein, qui sont différentes et qui sont à analyser, eh bien, telles quelles. Le Sénégal, évidemment, est marqué par une histoire aussi un petit peu singulière. Un premier président, Léopold Sédar Senghor, qui va conduire son pays sur la voie démocratique. Là aussi, l'histoire, hein, de ces différents pays, ce qui n'est pas le cas du Togo, où on a une dynastie Eyadema qui est là depuis plusieurs décennies. Cette histoire qui se construit progressivement avec Senghor, Abdou Diouf, puis les autres présidents de la République qui s'en suivent. Voilà, l'histoire est en train de se construire, l'histoire est en train de se bâtir et elle confirme que la démocratie, eh bien, s'installe au Sénégal.
Est-ce que ça peut être une leçon pour ses voisins ?
Écoutez, là, évidemment, moi, je ne peux pas avancer le fait que, voilà, c'est une leçon infligée aux pays de la sous-région. Si vous voulez, ce serait se placer du côté du jugement. En revanche, il est avéré que cela peut donner le goût à différentes jeunesses des pays africains d'aller dans cette voie, d'aller dans cette direction, de se dire que finalement l'alternance démocratique est possible et que ça peut être une démocratie aussi de rupture. Puisque, bien évidemment, comme vous le savez, le président Faye, puisqu'aujourd'hui on peut considérer qu'il a été élu, eh bien porte un discours de rupture.
Que le Sénégal tiendra toujours son rang. Il restera le pays ami et l'allié sûr et fiable de tout partenaire qui s'engagera avec nous dans une coopération vertueuse, respectueuse et mutuellement productive.
Diomaye Faye prenant la parole juste après sa victoire, discours capté par TV5 Monde. Caroline Roussy, que pensez-vous de son programme ?
Il va y avoir sans doute beaucoup d'éclaircissements à apporter. Le programme est intéressant à de nombreux égards, hein, souveraineté économique, souveraineté monétaire, souveraineté alimentaire. Je crois que cela correspond effectivement à une phase de l'histoire du pays qui n'en peut plus des relations de dépendance à l'égard de certaines puissances et la France sans doute plus particulièrement. Maintenant, quelle est la faisabilité de ce programme ? Comment le financer ? Un certain nombre de points annoncent par exemple la renégociation de contrats pétroliers et gaziers. Là, peut-être que ce sont des opérations assez délicates, hein, qui entraîneraient eh bien, le paiement de rétrocommissions. Peut-être d'autres choses sont plus abordables, comme la renégociation des accords de pêche, hein, comme vous le savez, parmi les pêcheurs, eh bien, il y a un grand nombre de candidats à l'exil. C'est un métier qui est particulièrement frappé eh bien, par une baisse de l'activité. Voilà. Pour l'instant, il faut quand même rester prudent ou à tout le moins interrogatif. Nous ne connaissons pas la composition du nouveau gouvernement du Sénégal et nous allons attendre avec impatience le 3 avril, veille de la fête de l'indépendance, au cours de laquelle eh bien, le président donnera son premier discours et sans doute ses premières orientations programmatiques. C'est important aussi de souligner qu'il va y avoir ce temps, puisque c'est une équipe nouvelle qui arrive en fonction, qui ne connaît pas le budget, qui ne connaît pas l'état du budget, qui ne connaît pas encore exactement le détail des contrats. Et c'est à partir de la prise de connaissance eh bien, de tout cet appareillage, quelque part, que certaines choses se révéleront possibles et d'autres peut-être moins. Et là, évidemment, c'est peut-être sans doute tout le sel et toutes les inquiétudes qui se posent par rapport à ce programme.
Alors, la Chine n'a pas tardé à adresser ses félicitations au nouveau président et Pékin souhaite travailler avec le nouveau gouvernement du Sénégal afin de renforcer la confiance politique mutuelle. On voit que la Chine est déjà dans les starting blocks. Un nouveau président pour le Sénégal, quel impact cela peut aussi avoir pour les relations entre Dakar et la France ?
Eh bien, le président Faye a eu déjà quelques mots, hein, lundi soir, me semble-t-il, où justement, il a quand même donné une forme de ligne. En rassurant ses partenaires, notamment ses partenaires occidentaux, on peut évidemment penser à la France, hein, qui est le premier partenaire économique et financier du Sénégal. Ce qui n'est pas le cas dans d'autres pays, hein, Quand on parle du Sahel central, par exemple, des pays comme le Mali, le Niger ou le Burkina Faso, la France n'était pas le premier partenaire économique et financier. Voilà, il y a une singularité, une fois de plus, avec le Sénégal. Le président Faye a bien dit qu'il était favorable au maintien de relations à condition qu'elles soient justes et équitables. Alors, qu'est-ce que cela signifie ? On sait que la France a été beaucoup critiquée, que circule une petite musique depuis plusieurs années sur place, selon laquelle les entreprises françaises ne paieraient pas d'impôts ou qu'elles auraient été favorisées par rapport à d'autres entreprises. Là encore, est-ce que c'est la réalité ? Est-ce qu'il n'y a pas des exemptions fiscales justement pour attirer les investisseurs ? Ces entreprises ne payent-elles vraiment pas d'impôts ? Eh bien là, le président aura à regarder tout cela dans le détail, mais c'est peut-être en effet l'occasion de renégocier les relations entre les deux pays sur des bases saines. Voilà, c'est plutôt ça qu'on peut dire à l'heure actuelle en essayant de ne pas virer dans une espèce de catastrophisme ambiant, prévoyant la fin des relations entre la France et le Sénégal. Les relations sont bien évidemment parfois mouvementées, mais il faut rappeler que les liens restent ténus, ne serait-ce que par le fait qu'il y a une diaspora sénégalaise en France et qui permet de maintenir et d'entretenir au quotidien ces liens.
Merci Caroline Roussy, directrice de recherche à l'IRIS, et merci Pierre Favennec, correspondant des Échos à Dakar. Vous pouvez retrouver ces analyses et décryptages sur leséchos.fr. La story s'est terminée pour aujourd'hui. Cette émission a été réalisée par Willy Gann, chargé de production et d'édition Michel Varnet.